C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous qui écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris. Vous venez d'entrer dans une heure dédiée aux 10 grands arts de l'humanité, avec un focus de ce qui se fait pour chacun d'entre eux dans la région de Paris. L'art crée-t-il des débats parfois irrésolvables? Met-il en évidence un point de fracture entre nos manières de penser, de parler, de ressentir? Aujourd'hui, je veux questionner comment l'art nous tiraille, comment parfois il peut nous mettre dans l'inconfort, nous confronter à des idées ou des représentations qui peuvent nous être blessantes, comment il nous repousse dans nos retranchements. Je veux questionner ce choc-là qu'il peut provoquer et l'état de silence dans lequel il peut nous laisser. Et puis, comment discuter d'art quand il nous est difficile de poser des mots sur ce que l'on ressent? Certains détails peuvent parfois tout changer à une perception ou à une construction d'idées. Là où je vois de la beauté, d'autres y verront du vide. Là où je vois du brouillard, certains y verront une lumière. Quand je me plonge dans ces détails que moi, je considère art, d'autres y voient peut-être un tout, peut-être bien plus intéressant à leurs yeux. Alors comment débattre et comment en parler? La seule réponse que je pourrais apporter ce soir, eh bien je dirais qu'il faudrait essayer. Chères auditrices, chers auditeurs, pour cette émission de juillet qui clôture presque la saison 1 de C'est dans l'art, je me suis permise de donner un bout de moi sur la question de l'art. Alors comme j'aime le dire, que vous soyez fidèles à notre émission de culture ou tout simplement curieuse, curieux de savoir ce qu'il se dit, ce qu'il se fait, ce qu'il se crée, vous êtes au bon endroit. Et pas de tabou sur nos manières de vivre l'art. Vous écoutez C'est dans l'art, l'émission d'actualité culturelle qui explore ce qui se fait dans le Grand Paris, et c'est sur Radio Campus Paris. Et on démarre cette heure maintenant. Allez, de quoi parlons-nous dans C'est dans l'art ce soir? Eh bien, on sillonne la ville pour trouver des sculptures remarquables, on se questionne sur le travail avec la bande dessinée Travailler Demain, on revient sur La Nuit Gay, diffusée par Canal+, depuis 30 ans déjà, on se plonge dans l'histoire d'une famille particulière avec le film A Normal Family, et on parle de la version enfin aboutie du jeu vidéo Baldur's Gate 3. Encore de quoi s'inspirer dans tous les arts, C'est dans l'art. C'est sur le 93.9 FM en Ile-de-France, sur le canal Campus en DAB+, et partout, et tout le temps, sur Radio Campus Paris. Paris.org. Amis curieux, c'est parti pour une heure artistique.
C'est dans l'art, un dimanche sur 4 sur Radio Campus Paris.
Et pour m'accompagner ce soir, j'ai avec moi autour de la table du studio direct de Radio Campus Paris, Ryan.
Salut.
Isnel.
Bonsoir.
Jeanne.
Salut.
Et Saphir.
Salut.
Prêtes et prêts avec leur chronique, Chloé nous a laissé un parcours audio qu'on écoutera attentivement. À la technique dans la régie de Radio Campus Paris, il y a Eléa et je suis Léa pour vous accompagner comme d'habitude au fil des chroniques. Salut à tous les quatre, merci d'être là ce soir. On est en équipe réduite mais on est plein d'énergie, plein d'idées, alors commençons sans plus attendre.
C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Et on commence cette émission par le tour d'actualité. Jeanne, tu nous donnes quelques recos culturels pour bien commencer l'été.
Et oui, si vous êtes comme moi coincé à Paris cet été, trouvons tout de même comment nous occuper, il y a de quoi faire. Alors pour commencer, sortie à la piscine sans se mouiller pour admirer le gigantesque bassin installé par l'artiste Céleste Boursier-Mougenot sous la rotonde de la Bourse de Commerce. Après ça, pourquoi ne pas partir en voyage sans quitter la capitale, en Égypte ancienne, sur les traces de Cléopâtre avec la nouvelle exposition « Le mystère Cléopâtre » à l'Institut du Monde Arabe. Encore mieux, direction le Brésil tout l'été, puisqu'une saison culturelle célébrant la richesse culturelle du Brésilier de la France est déployée cette année dans les deux pays à l'occasion du bicentenaire de nos relations diplomatiques. À Paris, de nombreux artistes brésiliens sont à l'honneur, des arts visuels à la danse en passant par la poésie ou la musique. Toute la programmation est à retrouver sur brésilfrance2025.com.
Et tu nous emmènes aussi en balade pour découvrir des sculptures qui passent souvent inaperçues.
Oui, focus sur un musée dont je n'avais jamais entendu parler alors qu'il se trouve en plein cœur de la ville, à la vue de tous dans le 5e arrondissement, le musée de la sculpture en plein air. Ce musée est installé sur le quai Saint-Bernard, entre le pont de Sully et le pont d'Austerlitz, à quelques mètres des arènes autour desquelles les Parisiens et Parisiennes se rassemblent pour danser au coucher du soleil. C'est un endroit très agréable pour une promenade l'été, à la découverte d'œuvres d'artistes qui ont marqué l'histoire de la sculpture, comme Zadkine, Brancusi ou César.
Des spectacles à voir cet été peut-être?
Beaucoup, grâce au festival Paris l'été, une grande fête des arts de la Seine qui investit plusieurs lieux à Paris et autour, comme le Grand Palais, les Tuileries, le Bois de Vincennes, Bastille ou Pantin. Au programme, des spectacles très variés, de la danse, de la musique, du cirque, des artistes venus de partout, queer et engagés, de nombreuses soirées gratuites, et ça j'adore, à découvrir du 12 juillet au 5 août.
Et s'il fait trop chaud, on peut toujours aller au cinéma.
Oui, bien qu'on soit pas franchement gâté en ce début juillet avec un énième Jurassic World, le retour inévitable de Quentin Dupieux, le premier film de Raphaël Quenard. Allez, je sauve quand même The Materialist, le nouveau film de Céline Sang qui avait signé le très beau Past Lives il y a quelques années. Mais j'ai encore mieux à vous proposer puisqu'à partir du 23 juillet, c'est le retour du cinéma géant en plein air à la Villette. Très cool pour les soirs d'été. À l'heure où je vous parle, la programmation n'est pas encore sortie, mais comme tous les ans, on y trouvera blockbusters et grands classiques, ciné d'auteur, animation, court-métrage, il y en aura pour tout le monde.
Et qu'est-ce qu'on lit sur la plage cet été ?
Oui, sur la plage ou dans un parc bondé si on trouve une petite place, on pourra toujours rattraper les romans qui ont marqué cette première moitié de l'année. Je vous donne quelques idées, comme « Mon vrai nom est Elisabeth », l'enquête familiale de Adèle Yon autour de son arrière-grand-mère lobotomisée dans les années 50 après un diagnostic de schizophrénie, ou alors « L'inventaire des rêves », nouveau roman de Chimamanda Ngozi Adichie qui raconte les destins et rêves croisés de quatre femmes puissantes venues d'Afrique de l'Ouest.
Et pour finir, tu nous encourages à nous aventurer quand même un peu en dehors de Paris.
Oui, pour échapper un petit peu à la ville, à 50 minutes de Gare de Lyon avec la ligne R, vous pouvez découvrir le festival Rosa Bonheur au château de Rosa Bonheur dans le 77. Un festival qui célèbre la création féminine et le matrimoine avec presque que des artistes femmes incroyables dans plein de styles différents. Classiques, néoclassiques, jazz, électro ou chansons, parmi lesquels Sophie Soliveau, Dom la Nena et Rosemary Stanley. Ça a commencé aujourd'hui avec un hommage à Dalida par Barbara Pravi. Dommage, on l'a raté, mais il y a plein d'autres choses à voir jusqu'à la fin du mois d'août.
Merci beaucoup Jeanne pour ce tour d'actualité générale. Allez, on commence notre émission.
Architecture,
sculpture,
musique,
c'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Qui a dit que le travail était quelque chose de figé, qu'il ne pouvait pas évoluer ? Ryan, tu nous as trouvé une BD qui mène l'enquête, à toi de nous en dire plus.
Ouais, mais avant j'ai une question à vous poser, qui a peur d'être remplacé par l'intelligence artificielle ? Tiens Léa, toi qui anime l'émission avec talent, tu t'es jamais dit peut-être que l'IA ferait mieux que moi ?
J'ose espérer que non, personnellement.
Elle est plus rapide, plus réactive, une mémoire infaillible, un accès à une quantité monstre de données. De quoi se sentir menacé, et ça se comprend. C'est l'un des plus grands bouleversements qui secoue le monde du travail, mais ce n'est pas le seul. La transition écologique, la population qui vieillit et vit de plus en plus longtemps, notre rapport au travail qui change, on veut trouver du sens dans ce qu'on fait, on veut pas sacrifier sa vie perso, on ne le veut plus. Désormais, beaucoup d'entre nous télétravaillent. Bref, ça bouge et ça nous interroge. Comment nos enfants travailleront-ils ? Comment allons-nous, nous, travailler dans les années à venir ? Eh bien, une bande dessinée, oui, nous donne des pistes pour répondre à toutes ces questions, nous informer, nous rassurer aussi. C'est une BD assez unique en son genre. Alors attention, quand on dit BD, on pense à Astérix, Spirou, Tintin, Gaston Lagaffe. Là, les personnages sont un poil différents. Christine Lagarde, Philippe Martinez de la CGT ou encore le chef étoilé Thierry Marx en personne, enfin en dessin. Ces personnalités très différentes ont accepté de devenir des personnages de BD. Ça s'appelle « Travailler demain ».
Alors, on a envie de connaître le synopsis, Ryan.
Le pitch est tout ce qu'il y a de plus banal, ça tient en une ligne. Soraya, lycéenne, a des devoirs. Elle doit faire un exposé sur le futur du travail, sacré sujet. Heureusement, sa grand-mère est DRH, donc autant vous dire que le sujet travail, elle voit un peu ce que c'est. Mais surtout, mamie pèse dans le game. À son pot de départ, des supérieurs, des collègues, des amis et Christine Lagarde. Avocate dans l'un des plus grands cabinets d'affaires à New York, trois fois ministre, directrice du FMI et présidente de la Banque Centrale Européenne, Soraya apprend d'elle que si les humains ont encore une utilité et doivent rester aux commandes. Quand la lycéenne ose face à Philippe Martinez, vous êtes un peu ringard, les syndicalistes non, il lui rétorque que c'est aux jeunes de les rejoindre et de dire ce qu'ils veulent, puis il disparaît par la fenêtre. Au fil des pages, une entrepreneure, Jasmine Manet, surgit d'un téléphone portable pour pulvériser l'idée selon laquelle c'est seulement aux jeunes de se bouger pour changer le monde, que les autres, les vieux, ont assez donné. Bref, les personnages se succèdent les uns après les autres pour aider Soraya à comprendre ce que sera le travail dans les prochaines années, mais surtout exposer leurs analyses, leur point de vue sur ce monde qui change à toute vitesse, le tout sous une forme de dialogue et autour d'un récit sobre, mais plutôt bien ficelé. Ça rend le travail pédagogique digeste et même divertissant, car finalement c'est aussi une œuvre. Un scénario coécrit par l'ancienne ministre du Travail Muriel Pénicaud et le journaliste Mathieu Charrier. Le duo avait une idée en tête, vulgariser de façon accessible et pédagogique cette question du travail du futur assez complexe, tout en restant nuancé, entre récits de profondes mutations bien réelles et optimisme. Un pari osé, plutôt réussi, joliment mis en dessin par Nicobi. Travailler demain, le futur du travail vu par 13 personnalités, sorti le 9 avril, c'est chez Glénat, allez le lire.
Une bande dessinée qui décrypte les bouleversements, les changements et les nouvelles définitions, de quoi réfléchir à nos nouvelles manières de travailler. Merci Ryan. Allez, passons aux réactions. Est-ce que vous sentez, vous, que le monde du travail est en pleine mutation, comme le dit cette bande dessinée, Saphir ?
Oh bah, je pense qu'un peu quand même, hein, clairement, avec l'intelligence artificielle, le fait qu'on va travailler jusqu'à 70 ans, je pense, d'ici quelques années. Et puis aussi le sujet de la santé mentale, hein, qui revient quand même vachement en force chez les jeunes. Hein, on en parle énormément et on voit aussi que beaucoup de managers n'y tiennent pas compte à ce niveau-là. Donc tout ça va faire que le monde du travail va aussi rentrer un peu en mutation et on espère pour le mieux. Mais ça, c'est pas gagné.
Jeanne. Mais je pense qu'aussi, on est une génération qui prend conscience de la place qu'on veut donner à notre travail dans notre vie. Alors, il y a encore des gens qui sont très carriéristes et tout ça, mais il y a aussi, j'ai l'impression, toute une vague de personnes de notre âge qui se disent, en fait, mon travail, c'est juste ce qui me permet de gagner de l'argent et ça ne peut pas me prendre 14 heures par jour et me faire faire des burn-out et m'épuiser le week-end et que je ne profite plus de rien. Donc, j'ai l'impression que cette importance-là qui est donnée, elle risque aussi de modifier la façon dont on envisage le travail dans les années à venir.
Isnel, ça t'évoque quoi, toi, ce sujet ?
Totalement ça. Je pense qu'on a tous vu nos parents être fatigués au travail et à quel point ils avaient quasiment plus de vie. Et c'est vrai qu'on a tous cette réflexion d'essayer de trouver un sens à ce qu'on fait et d'essayer de trouver un équilibre entre vie privée et le travail, même si ce n'est pas facile. Mais...
Ouais, vous l'avez toutes et tous mentionné, on est une nouvelle génération qui veut apporter ses propres codes. Vous pensez quoi, vous, justement, de ce choc des générations qui se rencontrent dans le milieu du travail ? Est-ce que vous pensez qu'il y a compatibilité ? Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'on trouve un terrain d'entente ? Ryan, toi, t'en penses quoi ?
Moi, je pense que c'est possible. Je pense qu'on apprend chacun de l'autre génération. C'est un peu con ce que je dis, mais on apprend tous de l'autre génération. Et c'est vrai que j'ai l'impression vraiment que les jeunes... se laisse plus faire, c'est peut-être un peu cliché mais c'est vrai, je le vois moi ma meilleure amie a souvent changé de boulot et en fait on est beaucoup plus mobile, j'ai l'impression, si ça va pas on se casse et on reste pas 30 ans dans la même boîte et on fait pas des heures sup pas payées comme ça et en fait il y a souvent cette phrase que j'entends, c'est mais t'as des actions dans la boîte. et en fait nous on n'a pas d'actions dans la boîte, donc en fait on va pas sacrifier notre vie privée forcément quoi.
Bah, pour le coup je te rejoins, on est une génération qui a pas forcément peur des conséquences de quitter un travail parce que j'ai l'impression, je sais pas si c'est par excès de confiance ou juste parce que on veut pas, comme tu dis, se satisfaire de choses qui en réalité ne nous vont pas. Une bande dessinée pour mener une telle enquête, est-ce que c'est un format qui vous attire, Jeanne ?
Mais je suis pas hyper BD moi à la base, mais j'ai l'impression que de plus en plus les essais adaptés en BD ont beaucoup de succès parce que justement se dire comme ça je vais lire un essai d'économie, ça fait pas rêver, mais dès que c'est exactement le même propos mais mis sous la forme de, je crois que c'est Le Capital de Thomas Piketty qui avait été adapté en BD il y a pas longtemps et que j'avais vu passer et que c'était beaucoup plus pédagogique et agréable à lire que cet énorme pavé d'économie. Mais
Isnel, pareil, une BD, ça t'attire pour des sujets parfois un peu complexes ?
Oui, bah déjà, le pitch que tu as fait de la BD a l'air super intéressant. Je trouve ça brillant comme idée. Et j'ai grandi en lisant des BD. Et c'est vrai que de voir ça pour des sujets plus sérieux, je trouve ça super intéressant. Ouais.
Aujourd'hui, on se rend compte que y a une réalité du travail qui change et il y a beaucoup, donc la BD en parle, hein, de nouvelles notions qui arrivent, comme par exemple la transition écologique, le rapport au travail, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Tout ça, ça fait peut-être un surplus. T'en penses quoi, toi, Saphir, de toutes ces choses-là qui arrivent dans le monde du travail ?
Bon, c'est juste le rapport au temps qui veut ça aussi à ce niveau-là. Et pourquoi pas ? C'est pas plus mal. Moi, je suis quelqu'un qui utilise énormément l'intelligence artificielle au travail parce que je considère que ça me fait gagner énormément de temps. Mais mon manager ne le sait pas, parce que sinon il penserait que je ne travaille pas. Enfin, voilà. Mais ça me rend plus productif, et tout en essayant de concilier un peu plus vie perso et vie privée, ce qui est très bien. Donc voilà.
Merci beaucoup pour vos réponses. Alors on vient de parler de la bande dessinée Travailler Demain, qui est disponible partout en librairie. Merci Ryan. Vous écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris, sur le 93.9 FM à Paris et dans sa région.
Art visuel, art médiatique, art de la scène. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Serait-ce la fin d'un développement qui ne se terminait jamais ? Toutes les options seraient-elles alors débloquées ? Cap sur Baldur's Gate 3 avec toi Isnel pour la rubrique jeux vidéo.
Bonsoir, alors ce soir je vais vous parler de Baldur's Gate 3. Rien que le nom, c'est devenu un symbole. Sorti le 3 août 2023, développé par Larian Studio, un studio indépendant belge basé sur l'univers de Dungeons & Dragons. C'est un jeu de rôle qui a marqué les joueurs, mais aussi, je pense, à mon humble avis, l'histoire du jeu vidéo. Et pour moi, ce n'est pas juste un bon jeu, c'est une œuvre vivante, profonde, parfois dure, parfois drôle. Un jeu qui m'a redonné foi dans ce que le jeu vidéo peut être quand il se donne les moyens d'être sincère. C'est un jeu d'une richesse folle, tu peux créer ton personnage, personnages avec un niveau de personnalisation immense, race, classe, sous-race, historique, tendance morale, et tout ce que tu choisis change ton aventure. Chaque décision, chaque échec, chaque interaction a des conséquences. Tu vis ta propre histoire dans un monde immense, libre et vivant. Même après plusieurs parties, je découvre encore des nouvelles scènes, des nouveaux dialogues, des relations inattendues. Enfin bref, c'est un jeu qui t'accompagne autant que tu t'y investis.
Alors, tu te dis que chaque partie est différente. T'as vraiment relancé autant de fois ?
Oui, et à chaque fois, c'est autre chose. Même un événement peut prendre une tournure totalement différente selon mes compagnons, ma classe ou mes choix moraux. Et parfois, tu peux bien faire et tu déclenches quand même un désastre. Et ça, franchement, c'est vraiment rare et précieux de nos jours. Baldur's Gate, c'est vraiment une expérience émotionnelle intense. Les personnages ne sont pas là pour plaire et toi non plus. Prenons l'exemple de Gale, notre magicien originaire de Waterdeep. Quand tu le sauves, il te demande si tu pratiques la magie. Moi, je lui dis oui, je suis en sorceleuse, et il me répond avec son tout sourire condescendant. Ah, je voulais dire formée à la magie. Pardon, mais en tant qu'en sorceleuse, la magie m'est innée, c'est littéralement dans mon sang. Toi, t'es un magicien et humain, donc il a dû bouffer des grimoires pour avoir accès à la magie. Bref, je l'ai hyper mal pris, donc j'ai laissé crever plusieurs fois. Il y a Lazelle, guerrière, Guyanqui, c'est une femme ultra brutale que souvent les joueurs détestent au début, mais moi personnellement, j'étais à fond avec elle. Son peuple, il a été réduit en esclavage par l'espèce, les flagelleurs manteaux, ce sont des antagonistes principaux de l'histoire. Ils ont réussi à s'en libérer après des siècles d'oppression, ils sont revenus plus forts que jamais dans cette histoire de résistance. M'a vraiment touchée et donc du coup je la défendais à chaque fois, surtout face à un compagnon qui s'appelle Shadowheart qui était hyper raciste et vraiment qui la traitait comme une barbare. Puis un soir au camp, on discute un peu, je lui en demande plus sur le lore de son peuple et là elle me sort hein, t'as un gros nez charnu quand même, genre je trouve que ça fait vraiment tâche. Et donc du coup j'ai pris ça très personnellement. Et puis encore il y a le personnage aussi Astarion, l'elfe favori de la franchise, et il est vraiment insupportable, il essaye plusieurs fois de vous tuer, il me bombarde de sarcasme à chaque fois que j'aide qui que ce soit, mais bon, il est beau, je suis faible, donc je l'ai gardé pour le visuel. Un soir, c'est la fête, on a enfin sauvé un groupe de tieflings, et là tout le monde est content, il y a du vin, il y a un lit, et puis moi je suis là, il est là, tout semble parfait, et puis là il me sort « Oh non, ce n'est pas toi, c'est moi, j'ai des standards ». Énorme claque, très violent, mais bon. Pretty privilege, solitude, désespoir, je l'ai quand même gardé et je continue de me faire rejeter lamentablement à chaque occasion tout le long de la partie.
Dis donc, t'as vécu quand même des choses intenses avec eux.
Oui, c'est ce que j'ai adoré, c'est que c'est pas juste un scénario classique, tu vis, tu juges, tu te trompes, tu changes d'avis, ils te jugent aussi, ils te recalibrent, t'ignorent, t'adorent, c'est vraiment une vraie relation humaine, sauf qu'ici, chaque émotion, chaque décision, ça a vraiment un impact sur l'histoire et c'est ce qui rend vraiment le jeu vraiment intense. L'Ariane Studio, c'est vraiment un studio belge indépendant qui sont vraiment anti-DLC, pas les lootbox, pas les suites à la chaîne. Le 15 avril 2025, ils l'ont annoncé, le patch 8, c'est le dernier, le jeu est officiellement terminé. Donc dans une industrie qui te vend tout le temps, souvent un jeu à moitié fini avec 3 ans d'extension derrière, les Sims 4, c'est vraiment une bouffée d'air. Et donc Baldur's Gate 3, c'est vraiment un jeu qui prend le temps de respecter les joueurs. C'est vraiment l'inverse de ce que sont devenues beaucoup de licences avec lesquelles j'ai grandi, qui malheureusement sont standardisées, un peu vidées de leur surprise, de leur créativité, de leur sincérité. Et c'est ce qui m'a manqué. Et c'est ce que vraiment aussi, derrière chaque personnage dans l'histoire en général, il y a aussi un motif récurrent, c'est celui de l'emprise, un contrôle, un abus, une entité qui influence ou manipule et dont chacun essaye de s'en sortir ou bien s'y abandonne. Entre flagelleurs mentaux, pactes, divinités, dépenses affectives, grooming, derrière tout l'aspect fantastique, ça parle vraiment de choses réelles et donc ça fait écho avec la vraie vie.
Et tu penses que ça peut donner envie à d'autres studios de suivre ce genre de voie ?
Je l'espère, même si c'est encore minoritaire, mais on voit des projets émerger comme Paralive, qui est un jeu de simulation de vie indépendant, sans DLC, qui est un peu une alternative éthique aux Sims, j'espère, qui est pensé avec amour, patience et respect du joueur. C'est fragile, mais c'est un signe d'espoir, et donc ça montre vraiment que c'est possible. Et donc, pour conclure, je dirais vraiment que oui, Baldur's Gate 3, c'est vraiment plus qu'un RPG, c'est un jeu qui te fait vraiment exister, réagir, ressentir, réfléchir. C'est une œuvre livre, dense, très dense, imprévisible, qui m'a rappelé pourquoi j'adore les jeux vidéo. Et aujourd'hui, dans une industrie qui préfère souvent la rapidité à la sincérité, ce jeu-là, en tout cas, je ne suis pas prêt de l'oublier.
Un jeu aux mille facettes qui plonge les joueuses et joueurs dans un monde sans fin. Merci, Isnel. Allez, passons aux réactions. Un univers aussi complexe, celui-là, dans lequel on peut se perdre sans fin, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous attirer ? Est-ce que Saphir, te lancer dans une aventure comme ça, aussi complexe, c'est quelque chose qui t'attire ?
Eh bien, justement, j'ai une question.
Ah.
Moi qui est absolument nul en jeu vidéo, mais tellement nul que je n'ai jamais terminé de jeu vidéo de ma vie. C'est une réalité même.
Mais donc t'as pratiqué un peu quand même, tu vois les univers dans lesquels on peut se plonger
Oui, complètement, complètement. Et j'ai une phobie de Mario, sachez-le, c'est terrible, j'ai une phobie des plantes pirada, c'est pas une blague. je peux me faire.
C'est dommage, c'est plus facile à finir.
Mais c'est ce que tout le monde dit.
Ça doit être dur au quotidien.
C'est... Ah non, mais j'en parlais avec mon psy l'autre jour. Et justement, ma question, c'est que bah, pour moi qui n'y connais absolument rien aux jeux vidéo, est-ce que c'est assez facile d'accès? Et est-ce qu'il n'y a pas moyen que qu'il y ait une phobie qui se développe parce qu'il y a un monstre qui surgirait de nulle part et ça va me rappeler mes pires angoisses étant enfant?
Ah non, totalement. Moi, par exemple, je n'étais pas hyper familière avec le monde de Dungeons & Dragons. Genre, je connaissais un peu, mais pas trop.
Donc, ce monde-là, c'est le monde qu'on retrouve dans Baldur's Gate 3, pour
oui, c'est
préciser
ça,
à nos éditeurs.
Exactement. Genre, c'est inspiré par ça, mais il y a tout un lore, en fait, et ça reprend pas mal de choses dedans. Mais moi, par exemple, qui n'étais pas hyper familière, je connaissais de loin, tu peux totalement te plonger dedans et vraiment, ça t'accompagne, mais pas trop. Genre, c'est pas non plus la facilité comme avec Pokémon, où c'est vraiment devenu beaucoup trop simple. Ça te laisse quand même l'opportunité de te perdre et tout, je trouve.
Jeanne ?
Oui, j'essayais d'indiquer discrètement à Léa que j'avais une question. alors, moi, je suis aussi nulle en jeux vidéo, mais j'en ai déjà fini un. C'était Professeur Layton sur Nintendo DS,
voilà,
en 2008. Ma question, c'est quand tu dis que, genre, tu disais « Ah, j'ai répondu au magicien que j'étais ensorceleuse », est-ce que c'est toi qui tapes « Je suis ensorceleuse » ou est-ce que il y a des pré-réponse définie et tu choisis dedans, auquel cas, parce que ma question d'après c'était, oui, est-ce que tu crois que... Enfin, je me suis dit, ça serait un truc de ouf si, avec l'intelligence artificielle qui est pas bien pour plein de choses, mais qui pourrait être bien pour ça, c'est-à-dire développer un jeu où c'est vraiment toi qui écris les réponses et que la personne en face, le magicien en l'occurrence, adapte en fonction de ce que t'as dit et que ça pourrait ouvrir des possibilités de jeu qui sont infinies en fonction de ce que tu lui dis. Est-ce que ça existe déjà ou pas, et est-ce que c'est... Enfin, voilà, question.
Ouais. Alors là, pour le coup, c'était prédéfini, mais en fait, comme il y a tellement de classes et de sous-classes aussi, du coup, ça fait qu'il y a au moins genre, des dizaines et des dizaines, peut-être même des milliers de dialogues possibles, en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait, quasiment peu de personnes n'ont jamais la même histoire. Pour le coup, je ne crois pas que ça a été fait avec l'intelligence artificielle, puisque ça date de 2019, quand même, le développement. Mais donc, effectivement, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Eux, je sais que pour le coup, ils l'ont fait eux-mêmes avec les développeurs. Et c'est parce que, oui, j'avais choisi la classe d'ensorceleur. Donc, du coup, j'avais cette option-là de répondre que j'étais ensorceleur. Mmh. Et c'est pour ça que ça donnait cette réponse-là. Mais si j'avais été une autre classe, il n'y aurait pas eu cette... Il aurait été encore plus condescendant, d'ailleurs.
Donc, Ryan, ça t'évoque quoi, tout ça?
Waouh, c'est beaucoup d'informations, honnêtement. Non, ça fait très très longtemps que j'ai pas joué à un jeu où on était dans un monde. Enfin, le dernier jeu où on était vraiment dans un monde, entre guillemets, auquel j'ai joué, c'était GTA, donc je sais pas si ça compte, parce qu'on est un peu, on conduit, on rencontre des gens, etc. Bon, c'est pas la même chose, mais ça m'évoque beaucoup de mystères et d'inconnus, parce que je suis pas trop RPG et j'y connais rien du tout, mais moi je trouvais ça intéressant ce que tu disais sur le jeu vidéo éthique et le jeu vidéo de gauche, quoi, le jeu vidéo non commercial. C'est intéressant, je savais pas du tout qu'il y avait, comme pour le cinéma et comme pour d'autres formes d'art, cet aspect non commercial qu'il pouvait y avoir, donc je trouve ça intéressant.
C'est une expérience qui, je pense, est à tenter. Merci beaucoup pour vos réponses. Pour rappel, on vient de parler de Baldur's Gate 3, qui touche enfin sa version définitive. Il se joue sur PC, Xbox ou encore PS5. À vous de jouer.
Bande dessinée,
jeux vidéo et multimédia.
Cinéma.
C'est dans l'art. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Merci d'avoir écouté cette première partie de C'est dans l'art. Pour les curieux et curieux, nous continuons de découvrir de nouvelles œuvres et personnalités. Place au cinéma, à la sculpture et aux arts médiatiques. À tout de suite.
Retrouvez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle sur radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de musique à la demande.